Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée et si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'univers de la tech. Vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site techcafé.fr, techcafe.fr. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne rien manquer des prochaines diffusions. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @GuillaumeVendée et sur ma page Facebook, Guillaume Vendée. Nous enregistrons aujourd'hui le mardi 5 septembre 2017. C'est la rentrée, ça y est, j'avais annoncé un petit peu les nouveautés, le bilan de la saison précédente, et puis je commence doucement mais sûrement à installer un nouveau rythme, peut-être même des nouvelles émissions, teasing, et pour cette rentrée de Tech Café, j'ai la joie et l'immense honneur de retrouver Kassim Kedfi. Salut Kassim, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien, c'est aussi ma rentrée.
Et parfait, ta rentrée podcastique.
Ouais, j'étais absent de l'épisode de Lifestyle de rentrée, donc je peux me rattraper là. J'étais absent à cause de l'IFA.
Bah c'est bien, ça va te permettre de reprendre les bonnes habitudes, de parler de tech au micro. On le rappelle, Lifestyle, c'est un podcast aussi sur la tech d'ailleurs, auquel tu participes, qui a un axe un petit peu plus tourné vers les actualités de l'univers Microsoft au sens large. Mais ça parle pas que de ça, donc je vous invite aussi à écouter Lifestyle. On peut rappeler aussi d'ailleurs que dans ton quotidien, tu es journaliste chez Numérama, Frandroid, j'en oublie.
Non, c'est tout, ça fait ça.
Donc on peut retrouver plein d'articles de Kassim, outre sa voix dans Tech Café et dans Lifestyle, sur ces deux sites, et vous aurez aussi les liens dans les notes de l'émission. Allez, pour la rentrée, on va s'attaquer à un joli petit morceau, c'est histoire de reprendre un petit peu, de se refaire un petit peu les muscles des salons. On va suivre un petit peu ce qui a été annoncé à l'IFA 2017, ce salon qui a lieu à Berlin tous les ans. Alors c'est toujours un petit peu compliqué avec les salons de savoir si ils ont encore une raison d'être de par leur présence physique, parce qu'on peut suivre tellement les choses à distance que finalement on se dit que c'est pas forcément nécessaire d'être présent parce qu'on a toutes les infos sur internet, et pourtant le simple fait que ce soit des salons comme ça qui aient lieu physiquement donne l'opportunité à pas mal de constructeurs, pas mal de marques d'annoncer des choses, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble sans autre forme de procès. On passe donc aux news axées sur l'IFA 2017. Kassim, qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui t'a marqué, ce qui a été annoncé? Est-ce qu'il y a eu des choses bouleversantes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont révolutionner un peu la tech dans les semaines et les mois à venir? Qu'est-ce que tu peux relever comme tendance?
Oui, donc tu avais tout à fait raison. L'IFA, c'est un gros salon à suivre. C'est un salon qui marque la rentrée, en fait, pour l'électronique grand public. C'est là où sont annoncées plein de nouveautés qui sortiront dans les mois à venir, d'ici Noël, en fait, avant Noël. Donc c'est vraiment le salon tech qui clôture l'année, alors que par exemple le CES de Las Vegas commence l'année en janvier et lance les premières tendances en fait de ce qui se passera dans l'industrie pour l'année. Donc après, pour cette édition là malheureusement c'était pas forcément la plus grande édition du salon. comme tu le soulignais ou tu le disais un peu implicitement, c'est vrai que les salons sont un peu en perte d'intérêt, notamment parce que certaines marques décident d'annoncer leurs produits en amont ou carrément, enfin vraiment avec leur propre calendrier en fait, donc vraiment plus dans ces salons là. Pour autant, ils sont quand même intéressants. D'une part, parce que ces salons, en fait, c'est là où les acteurs, eux, font derrière les murs du salon, enfin, à l'intérieur du salon, c'est là que les constructeurs, les partenaires, les partenariats se forment, en fait. C'est l'occasion pour les constructeurs des fois de se rencontrer, notamment les sous-traitants et les assembleurs, par exemple. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous journalistes souvent d'aller directement au contact des responsables produits, de pouvoir aller comprendre mieux l'existence de certains produits.
C'est peut-être là d'ailleurs, pour t'interrompre 30 secondes, c'est peut-être là d'ailleurs où vraiment on voit qu'il y a quelque chose qui... paradoxalement, on n'a pas changé. On est en 2017, on est dans un univers où on baigne de technologie, on parle d'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure, mais on se rend compte qu'il y a encore besoin, de manière incontournable, pas fréquente, mais incontournable, de cet échange humain, et tu décris bien les relations, je trouve, entre les constructeurs, les partenaires, mais aussi les journalistes. Il y a finalement toute cette émulsion qui... en 2017, peut pas se faire en ligne, ou peut en tout cas pas se faire que en ligne, et il y a besoin de ces rendez-vous physiques. C'est intéressant quand même de voir que ça ne se perd pas, et je vois pas par quoi on pourrait les remplacer dans les années à venir, du coup.
Oui, c'est exact. Bah, t'as trouvé le bon mot, je pense. C'est un rendez-vous, en fait, clairement. Et puis ça, c'est quelque chose qui est attendu et ça marque l'année. Voilà, il y a le CES, le Mobile World Congress et l'IFA. C'est bien rodé. Les gens connaissent leur agenda. Donc, en tout cas, les professionnels de l'industrie, quoi.
Est-ce que les gens se retrouvent d'ailleurs d'un salon à l'autre? Je m'explique, est-ce que les personnes que tu vas, je pense pas, je me trompe peut-être, est-ce que les personnes, vraiment les personnes, je parle pas des marques, hein, que tu vas croiser à l'IFA, tu vas pouvoir les recroiser au CES de Las Vegas, par exemple?
Bah alors CES, je sais pas, je l'ai jamais, celui-là je l'ai jamais fait, mais après si, bah tout simplement parce que bah déjà les journalistes,
Ah
on n'est pas
oui,
non plus des
bien sûr.
millions, donc il y a des dettes que tu reconnais, d'autres que tout simplement voilà, que tu connais vraiment personnellement, et même côté marque, bah il y a des responsables presse ou des responsables produits, bah le responsable produit de chez Acer ou de chez Asus par exemple, bah il change pas tous les ans quoi,
Donc
donc
si tu rédiges un mauvais papier sur un de leurs produits, il faut être capable d'assumer face aux responsables de relations presse de telle marque, de revenir le voir pour d'autres produits tout en
Ah
sachant que...
bah ça c'est un jeu, enfin c'est oui, bah on pourrait en reparler plus longuement, mais c'est le jeu de la relation entre la presse et les industriels. C'est oui, bah des fois il y a des articles qui plaisent pas et donc les marques sont des fois te punissent entre guillemets pour certains articles qui t'ont pas plu, qui leur ont pas plu, mais en même temps, enfin, ça va pas t'empêcher de les écrire derrière, et bon, c'est le jeu, quoi, en même
Bien
temps, enfin,
sûr.
chacun est dans son droit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, ils t'interdisent pendant, voilà, un petit événement, ils t'interdisent un événement, l'événement suivant, ils te réinvitent, voilà, tout va
Désolé,
bien.
c'est plein. Repassez plus
Ouais,
tard.
c'est ça. Non, mais ça peut être ça.
D'accord.
Bref,
Alors, ce qui t'a un peu marqué, ce qui sort un peu du
ouais.
lot, ce qui, voilà, ce
Bon,
qui...
y a deux, trois grandes tendances, je pense, qu'on peut tirer de cette IFA. La première, c'est bon, côté smartphone, il y a deux produits qui sont sortis un peu du lot, et sinon, on peut surtout dire que le marché est définitivement mature parce qu'il y a plus de, c'est plus la grande concurrence où chaque fabricant sort un flagship et puis voilà, c'est la guerre pour savoir lequel va gagner le salon, etc. Là, vraiment, il y avait presque pas de bataille en fait. Hein. Bah les flagships de fin d'année, c'est ceux de Samsung par exemple et d'Apple qui seront pas présentés à l'IFA. Celui de Nokia était présenté avant aussi, donc en définitive, HTC en avait pas a priori dans les cartons. Donc en définitive, il restait plus que LG et Sony et Huawei aussi qui présentera en octobre le sien. Donc voilà, il restait plus que LG et Sony et c'est vraiment LG qui a brillé. Clairement, tout le monde avait les yeux tournés vers le LG V30 qui a été annoncé. Et voilà, il a brillé parce que c'est tout simplement un produit très haut de gamme qui, bah, comme disait un YouTuber américain, MKBHD, il coche toutes les cases en fait. C'est vraiment un smartphone très bien équipé. Donc c'est,
Il est beau.
ouais, il est très très beau. Donc avec son design vert aluminium, puis surtout l'écran de 6 pouces. Borderless, enfin vraiment sans
Ouais,
bordure.
c'est
Là,
un écran que tu as face à toi quand tu le tiens face à toi. C'est un écran avec deux morceaux noirs en haut-dessus et en dessous, c'est clair.
c'est ça. C'est la grosse tendance de toute façon de l'année en smartphone sur les smartphones haut de gamme. C'est vraiment le borderless. Et là, en plus, c'est le premier écran de LG qui soit de type OLED. Donc, comme Apple, ils utilisaient que du LCD jusqu'à présent. Et donc là, ils rejoignent Samsung à utiliser de l'OLED. Donc, ça veut dire un écran qui aura des meilleurs contrastes.
Des
Et
meilleurs
enfin.
noirs, des noirs plus profonds, bien
Ouais,
plus
ça des
profonds.
noirs pour en fait des noirs parfaits en fait tout
Ouais, des noirs
simplement.
parfaits. Est-ce que juste au niveau de l'écran, alors moi j'ai une marotte, enfin j'ai un truc qui m'obnubile un peu dans les smartphones, c'est que je suis un peu victime du côté effectivement très sexy des Samsung Galaxy S7 Edge, enfin les derniers Samsung qui ont, tu vois, des écrans qui recouvrent le bord. Vraiment, j'appelle ça des écrans recouvrants. Et en même temps, l'aspect qui à l'usage me plaît pas trop. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand je regarde une vidéo avec ce type de smartphone, je trouve que le haut et le bas de la vidéo sont un peu tordus, il y a des reflets. Et puis à la prise en main, je suis pas hyper emballé. Donc je trouve qu'il y a un côté sexy qui fait que ce type de smartphone est fait pour les pubs, est fait pour valoriser une marque, mais par contre, à l'usage, je suis pas hyper emballé. Alors, est-ce que le LG V30, pour bien être sûr d'avoir compris, il a ce côté un peu recourbé sur les côtés?
Alors, je vais
J'ai
dire
du mal
oui,
à me rendre compte, en
mais c'est
fait.
vraiment très 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 léger. C'est beaucoup plus léger que sur la gamme
Ouais.
Samsung. C'est vraiment juste pour donner un effet vraiment qui fusionne en fait avec le châssis, le reste du châssis du téléphone. Mais sinon, au-delà de ça, non, vraiment pas. C'est pas du tout cet effet courbé que peuvent avoir les Samsung,
qui est très prononcé hein, chez les Samsung,
qui est vraiment très prononcé. Là, en fait, quand tu l'as face à toi, tu le vois, tu vois pas la courbure en fait si tu l'as face à toi. Donc c'est pour vraiment,
faut
vraiment
regarder
sur le
pas,
côté en fait.
Etc.
Non, 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 là vraiment, non, justement, c'est plutôt un écran plat et je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est plutôt un des trucs qui vont plutôt m'attirer. Je préfère les écrans borderless, j'aime bien, mais vraiment plat en fait. Enfin, faut qu'il reste plat à l'écran. Et donc, effectivement, là, c'est pas un écran incurvé.
Donc, en tout cas, en façade, c'est un superbe écran. Effectivement, comme tu dis, il coche toutes les cases. C'est un peu difficile de lui faire des critiques. Bon, le dos est moche. Il est moins beau,
oui,
on
il est
va
classique,
dire.
Quoi.
Mais il est assez classique. Et puis, ce qu'il y a à l'intérieur, on peut pas faire beaucoup de critiques non plus, finalement. Ah, et peut-être la RAM qui est pas, on pourrait s'attendre à avoir plus, mais parce qu'on n'est jamais content. Il y a 4 Go de RAM, c'est ça?
C'est ça, alors que bon, les meilleurs du marché peuvent avoir 6 ou 8 gigas de RAM, mais bon, c'est vraiment pour chipoter.
C'est ça.
Mentionnons quand même la caméra, puisque c'est le premier appareil, enfin, c'est le premier smartphone à être doté d'un appareil photo avec un objectif ouvert à 1.6. Donc là, voilà, on recouvre encore, et bien sûr, il a un système de double caméra comme tous les smartphones haut de gamme, mais voilà, là aussi, il devrait faire des prouesses, ça devrait être, c'est potentiellement si LG se. Trompe pas, enfin ne rate pas l'optimisation logicielle, parce que le logiciel est très important. Sur le papier, ça peut être le meilleur appareil photo de cette fin d'année,
ça,
en mobile.
Super intéressant.
Donc le meilleur écran, le meilleur appareil photo, voilà, c'est vraiment avec une voilà résistance à l'eau, résistance à la poussière, même certification soi-disant enfin militaire STG 800, enfin voilà. Il y a vraiment, ils ont mis tous les trucs qu'ils pouvaient mettre dedans, ils y sont quoi.
Et puis juste un détail d'ailleurs hein, pour l'ouverture là, on parle de 1.6. En fait, c'est bon, et on va pas rentrer dans les détails de la photographie, mais en gros, plus le chiffre avec le en dessous du 1,
F,
voilà, le F est petit, plus l'ouverture est grande, et on sait que plus un objectif peut ouvrir grand, plus il y a une quantité de lumière importante qui arrive, et par définition, c'est toujours ce qui permet d'avoir les plus belles photos parce que les meilleures profondeurs, les meilleurs effets de profondeur avec les réflexes par exemple, et les photos les plus nettes, enfin voilà, c'est de manière générale les ouvertures, voilà,
oui.
En basse luminosité, ça évite d'utiliser un flash dégueulasse.
C'est ça, les photos seront nettes parce qu'en fait l'objectif a moins besoin de rester ouvert longtemps pour capter de la lumière en fait. Donc du coup, il est automatiquement, puis en plus il y a de la stabilisation optique dans ce cas-là. Dans ce cas précis, donc oui, ça devrait être bien en basse luminosité.
Par contre, effectivement, la partie optimisation logicielle est hyper importante parce qu'il y a plein de smartphones qu'on a pu voir sur le papier qui, d'un point de vue technique, promettaient plein de choses en photo et qui, en fait, ne restituent pas des belles photos. Voilà, on va attendre. Et puis, par contre, moi, il y a un truc que je retiens, c'est qu'à LG, il y a quelques temps, et si je me trompe pas trop, il y a moins de 2 ans, nous promettait un avenir avec des smartphones modulables, des accessoires à perte de vue et du coup, ils en sont définitivement revenus. Je crois que là, ils sont allés jusqu'à cocher la case, ne pas se prendre la tête avec les trucs qui servent à rien, quoi.
Oui, je pense. C'est clairement ça. C'était déjà leur donc la leçon qu'ils avaient apprise. Parce qu'effectivement, le smartphone modulaire dont tu parles, c'était le LG G5. G5, ouais, justement, en 2016. Et déjà avec le G6 présenté en début d'année, ils avaient dit en fait, on va arrêter les trucs modulaires et les trucs dont personne, dont tout le monde se fiche. Et on va plutôt écouter ce que les gens, ils veulent. Alors, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent une batterie un peu importante, ils veulent de la résistance à l'eau, voilà. Et en fait, ils ont essayé de cocher, justement, de cocher les cases et d'essayer de faire un smartphone que les gens veulent, en fait, ce qui est intéressant pour le vendre. Et dernier point, quand même, qui a son importance, malheureusement, en 2017, il a un port jack.
Ouais.
Et alors, bon, il a quand même pas n'importe quel port jack, il a un port jack avec un quadruple DAC derrière.
Ouais,
donc avec les écouteurs qui fournis avec, qui vont bien pour en profiter.
C'est une stratégie en sachant que il y a nos pixels là, de chez Google, d'après les rumeurs. Alors c'est toujours des rumeurs, c'est toujours un peu compliqué de baser des avis et des tendances sur des rumeurs. Mais il serait question de Pixel 2 sans port jack, là où ils affirmaient haut et fort dans la présentation de l'an dernier les pixels avec port jack. Alors on va voir où va aller la tendance. Moi c'est vrai qu'à l'usage, maintenant que j'ai un smartphone sans port jack, Bon, je reconnais que ça me manque pas du tout, mais parce qu'il y a l'écosystème qui va bien avec et parce qu'il y a les AirPods que j'adore. Donc ça reste une vraie question. Mais aujourd'hui, je suis pas certain que ce soit un point qui ait empêché de vendre des iPhones. Et à condition de proposer des éléments intéressants autour, je suis pas certain que ça manque vraiment. Enfin bon, je parle pour le grand public, on va dire, mais bon. On continue avec les smartphones parce que tu disais donc il y a deux marques qui sont présentes quand même sur le smartphone avec des propositions intéressantes. LG, on a vu le haut de gamme. Là, du côté de chez Sony, c'est autre chose qu'il faut attendre en termes de choses remarquables que tu nous avais notées dans les notes de l'émission sur lesquelles tu voulais qu'on s'attarde un petit peu du côté de Sony. Alors c'est forcément Xperia, mais c'est Xperia quoi cette fois?
Alors, c'est le Sony Xperia XZ1 Compact. Oui, bon, alors les noms chez Sony, bon, faut... Disons, quand on suit l'actualité, on comprend la logique derrière. Mais après, je pense que d'un point de vue externe, je suis pas sûr que ce soit très convaincant.
C'est
mais
les premiers smartphones, enfin, c'est les premières marques à faire des noms de produits pensés uniquement pour les journalistes experts en technologie.
C'est ça. Bah, disons qu'en fait, il y avait... Mais c'est tout simple. Il y avait eu le Xperia X, après, il y a eu le Xperia XZ, et là, il y a le Xperia XZ1.
Qu'est-ce que vous comprenez pas.
Voilà. Sachant qu'il y a eu le Xperia XZ Premium en milieu de l'année aussi. Mais bon. Bref.
Alors là, est-ce que c'est un concurrent du LG ou est-ce que de l'iPhone 8 édition plus qui va arriver? Est-ce que c'est du haut de gamme?
Alors, Sony te répondrait probablement oui. Alors, ils ont présenté deux produits. En fait, le Sony Xperia XZ1 et le XZ1 Compact. Le Xperia XZ1, c'est juste un smartphone flagship complètement classique et même plutôt dans le flagship accessible entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va justement pas aller chercher l'iPhone, le Galaxy Note et les smartphones de LG. Il va plutôt rester, tu vois, à un prix un peu plus abordable et du coup, par exemple, il a pas d'écran, il a un écran complètement classique, il a pas un écran borderless et il a même plutôt un écran petit, enfin le châssis est quand même très grand par rapport à l'écran.
Mais bon. Étriqué pour un smartphone de 2017, non?
C'est ça. Mais peu importe, lui, c'est pas vraiment celui qui nous intéresse. C'est vraiment le Sony Xperia XZ1 Compact que j'ai retenu, tout simplement parce que Sony est un peu tout seul sur le marché avec Apple, si on va chercher du côté d'iOS, quoi.
Mm-hmm. Et Wiko.
Non, c'est tout simplement
même pas,
un smartphone. Ouais. Non, même pas. C'est un smartphone. En fait, c'est vraiment un smartphone haut de gamme, compact. Et ouais. Ça, d'habitude, toutes les autres marques, en fait, quand elles te font un Galaxy S Mini ou un LG Mini ou des trucs comme ça, toujours les. En fait, ils prennent le nom du haut de gamme, mais en vrai, la fiche technique est toute pourrie, en fait, derrière. ou en tout cas, elle est pas au niveau de ce que t'attends d'un haut de gamme, en fait. Donc ils en profitent, voilà, ils vont raboter l'écran, etc. Là, Sony, c'est vraiment les seuls à jouer le jeu du compact qui a les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques que le grand modèle, juste avec un écran plus petit et une taille plus petite en fait. Du coup, c'est un téléphone équipé d'un écran de 4,6 pouces. C'est vraiment aujourd'hui n'importe quel smartphone haut de gamme a 5 pouces ou plus, voire 5,5, voire 6 pouces. Donc 4,6 pouces, c'est vraiment plus petit quoi. Mais pour autant, il a la dernière puce, le dernier processeur haut de gamme, il a 4 gigas de RAM, 32 gigas de stockage, l'appareil photo qui va bien, etc. Je vais pas faire la liste de tout. Et la dernière chose que je veux mentionner comme caractéristique qui est très intéressante pour ce téléphone, c'est le fait qu'il tourne sous Android 8.0 Oreo, ce qui en fait le premier smartphone annoncé sur le marché avec la nouvelle version. En fait, c'est la toute nouvelle version d'Android. Quoi.
C'est comme le XZ1 d'ailleurs, il n'y a pas que le compact.
Non, quoi, oui, comme le XZ1. Vraiment, la fiche technique en fait est la même, sauf le poids et les dimensions et l'écran du coup. Mais sinon, tout le reste est pareil, même la batterie, tout est identique entre les deux téléphones.
Et tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'attarder effectivement un petit peu. Et je te remercie d'avoir ajouté ça dans les notes de l'émission parce que je l'avais pas relevé moi de mon côté en préparant tout ça. J'ai vraiment la réflexion autour de moi qui me balade avec un gros smartphone, de réactions régulièrement hein, de personnes qui sont pas nécessairement technophiles, qui sont pas des personnes qui courent après un modèle de smartphone tous les ans, mais qui me disent « mais comment tu fais au quotidien avec ton appareil? C'est trop gros ». C'est tout, point barre, c'est la conclusion, c'est trop gros. Alors oui, l'argument de la vitesse, oui, l'argument de la qualité photo, oui, l'argument d'avoir un parc applicatif intéressant, faire tourner toutes les applications qu'on aime, mais l'écran est trop gros. Et du coup, on peut on peut rigoler à l'heure où la performance permet d'avoir des écrans très immersifs, mais finalement, je pense qu'il y a vraiment définitivement des gens qui, et je voudrais certainement pas caricaturer en disant que c'est des personnes qui sont âgées ou des filles ou que sais-je pour caricaturer ce type d'usage, parce que vraiment, je connais énormément de personnes de profils très différents qui apprécient ce type de smartphone. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, je connais des personnes qui aiment la technologie, qui aiment exploiter leur smartphone, mais qui trouvent vraiment définitivement l'écran trop grand. Donc c'est intéressant de voir qu'ils proposent ça. Alors c'est quoi la gamme de prix par contre sur ce type d'appareil?
Alors justement, en plus c'est intéressant, c'est donc le grand modèle, en fait, il est annoncé à 699 €, donc 700 €. C'est le prix, voilà, classique pour un smartphone haut de gamme aujourd'hui. Par contre, le compact, c'est là où c'est intéressant aussi. Il est annoncé avec 100 € de moins, donc entre guillemets seulement 600 € pour un smartphone haut de gamme, ce qui est vraiment entre guillemets pas cher, hein, pour un smartphone qui est distribué en France. On parle pas de smartphone chinois ou quoi. Pour un smartphone, voilà, distribué en Occident, avec le service après-vente derrière, les marges des distributeurs, etc. C'est vraiment un prix contenu, quoi, pour un téléphone avec cette fiche technique là. Enfin voilà, faut se rendre compte que aujourd'hui les smartphones les plus haut de gamme avec le Galaxy Note 8 et tout ça, on est en train de parler de prix qui vont dépasser les 1 000 €, quoi.
Bien sûr.
Sans abonnement. Donc 600 €, voilà. C'est à remettre dans cette perspective là.
Mais est-ce que tout le monde, est-ce que les gens qui vont l'acheter vont remettre justement en perspective cette différence de prix? Est-ce que finalement quand ils vont voir un Samsung Galaxy S8 et ce smartphone compact, est-ce que ils vont peut-être pas mettre de côté pour des gammes de prix, bon, comparables, même si c'est pas le même prix. Mais bon, est-ce qu'ils vont pas mettre de côté leur attente d'avoir un smartphone avec un écran plus petit, puis finalement se laisser tenter par quelque chose qui va leur paraître peut-être pas beaucoup plus gros à la prise en main et sur une gamme de prix très comparable, quoi.
C'est possible, mais je pense qu'il y a un vrai marché. Alors déjà, c'est pas le premier compact que Sony y lance, et je pense que s'ils continuent comme ça d'en lancer année après année, c'est qu'ils en vendent. Et surtout, je pense que la plus grande preuve au-delà de Sony, c'est le fait que Apple ait décidé de lancer l'iPhone SE, donc c'était l'année dernière. Enfin, c'est bien la preuve qu'il y a un marché pour ce format de smartphone. Alors l'iPhone SE, il est encore plus petit, mais c'est vraiment, je pense, la preuve qu'il y a un marché. Sinon, Apple aurait, enfin, si Apple se lance dans un truc, c'est qu'il y a un marché, quoi. Sinon, il prendrait pas la peine de le faire, quoi. C'est un peu, on parle quand même de la marque un peu rouleau compresseur de ouais. Bon, bah, on a décidé que ce serait comme ça à partir de maintenant et vous vous adaptez à nous, quoi. Ouais. Donc je pense quand même qu'il y a un marché de personnes qui veulent un plus petit smartphone. Ça peut aussi, tu sais, ça peut être aussi un marché de, j'y pense, de smartphone professionnel ou de second smartphone. Alors, je sais que c'est un peu, paraître un peu bizarre comme ça, parce que on parle de smartphone haut de gamme et puis dans cette gamme de prix, voilà, il y en a, ils ont à peine les moyens de s'en acheter un. Alors, hein, de parler de deuxième smartphone.
Les choses dans leur contexte, mais bon, oui, je comprends ce que tu veux dire.
Mais ça peut être un smartphone compact qu'on aime oublier parce que c'est notre smartphone professionnel. On veut pas, voilà, qu'il nous prenne trop de place dans notre jean ou dans notre sac.
Et en même temps, on veut que quand on l'utilise pour des besoins professionnels, le truc réagisse et soit pas en train de ramer tout.
C'est ça.
Écoute, parfait. Donc, finalement, pas de grosse révolution. Oui, j'étais en train de réflexion avec quand tu parlais de l'iPhone SE. Ça me donnait l'impression que c'était la première fois, ouais, je vais troller, qu'Apple écoutait une attente marketing et qu'il n'était pas en train d'imposer une attente marketing. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a un peu de ça. Ils font ça aussi un peu. Mais c'est vraiment sur des marchés de niche. Tu pourrais argumenter du fait qu'ils fassent ça aussi pour le Mac Pro et. Et tu vois cette gamme, ces gammes-là un peu où tu sens que ils ont plus vraiment d'intérêt à les lancer, mais bon, ils le font quand même parce que c'est leur cœur, enfin leur plus gros fans, en fait, qui sont en attente de ces produits-là, quoi.
Ils perdraient plus d'argent à ce qu'il y ait une marge de la population qui les critique par rapport à ces attentes-là pour ne pas y répondre qu'à investir un peu dedans, quoi. Donc je pense qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits à ce niveau-là qui sont assez détonnants pour nous avec un peu de recul et par rapport à la consommation qu'on peut avoir, mais qui doivent être de cet ordre-là, je pense. Bon, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, Kassim, si tu veux bien, à moins que tu aies d'autres choses sur l'univers précisément des smartphones à relayer.
Non, pas du tout.
Alors, on va passer à une rubrique plus affichage, notamment un produit. Alors, encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas été dans le salon et qui voit ça à travers la fenêtre de ce que vous nous restituez dans votre travail de journaliste et puisqu'on peut trouver en veille, quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est The Frame de Samsung, qui vous propose ni plus ni moins que d'oublier le fait d'avoir un téléviseur chez vous et de remplacer ça par un cadre qui peut accessoirement servir de télé. Donc je caricature un petit peu parce que ça peut donner l'impression que c'est une espèce de cadre photo très évolué. Dans la philosophie, par certains aspects, c'est pas totalement ça. ça pourrait être un petit peu ça, mais ça va quand même beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que The Frame et surtout qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, quoi?
Alors, c'est pas totalement un nouveau produit parce qu'ils l'avaient déjà lancé dans des grandes tailles, mais là en fait ils le rendent plus accessible. En fait, ils sont en train de diminuer la taille la diagonale de l'écran en fait pour le rendre plus accessible, tout simplement. Mais c'est vraiment un produit, oui, qui fait son effet en fait à chaque fois qu'il est présenté. En fait, c'est une télévision, enfin un écran qu'on va poser sur un mur de son salon. Et qui va prendre l'apparence d'un cadre avec un tableau,
quoi. Bois ou ce qu'on veut d'ailleurs.
Un cadre en bois, voilà. Et l'image en fait en veille va prendre l'image d'un tableau. Et en fait on a vraiment l'impression dans une pièce quand l'écran est éteint d'avoir affaire à un tableau affiché à un mur. Et donc d'oublier, enfin le but étant d'arrêter avec cette sorte de verrue noire géante qu'on a l'habitude de voir dans les salons, qui est la télévision jusqu'à présent, d'autant quand on augmente la diagonale, plus on augmente la diagonale, plus ça prenait de la place. Donc voilà, le but c'est d'arrêter ça avec ce produit. Et c'est vrai qu'il a ce côté vintage un peu, enfin c'est
Oui, il est pas disruptivement moderne, quoi, c'est ça que tu veux dire?
Non, ouais, mais enfin il utilise la technologie pour se fondre dans quelque chose de traditionnel, mm-hmm. et pour faire oublier la technologie en fait, mais mm-hmm. c'est pourtant quelque chose de à la pointe technologiquement en fait qu'on pourrait pas faire sans les technologies de Samsung, quoi.
D'autant qu'il y a une restitution des maths qui est hyper a priori impressionnante quand on le voit, truc donne vraiment une impression d'imprimé, quoi.
C'est ça. Donc c'est vraiment à la pointe de la technologie, mais pour donner quelque chose de classique, enfin d'anti-technologique, quoi.
Ouais. En tout cas, ça se remarque pas comme étant un produit high-tech.
Voilà. C'est ça.
Justifie qu'on achète plusieurs télés. Parce qu'aujourd'hui, enfin, outre le prix, bien entendu. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'achète pas plusieurs télés, c'est qu'on a strictement aucun intérêt d'avoir plusieurs télés. Par contre, si demain, tu as plusieurs cadres, desquels tu peux avoir, mettons, t'as 5 cadres dans ton salon, il y en a 4 où t'affiches des œuvres d'art, et puis un cinquième, t'allumes la télé, où tu peux faire en sorte d'afficher différentes choses selon tes besoins, selon les configurations de ta vie de famille, etc. Finalement, ça justifie à fond. Par contre, aujourd'hui, ta grosse verrue noire que tu décrivais tout à l'heure, il n'y a aucune raison que t'en mettes une deuxième dans ton salon.
J'ai l'impression que tu me décris Retour à le futur
les billets de pendule.
Non, oui, Retour à la Future 2, où il regarde 9 chaînes à la fois.
Oui, t'as raison. Ouais, exact. Ouais. Mais je trouverais pas ça idiot. Tu vois, t'as le cadre dans le côté cuisine qui t'affiche les youtubeurs cuisine. T'as la partie salon avec le vélo elliptique avec le cadre où ils diffusent des exercices de Runtastic. Un autre où il y a le salon où il y a Netflix. Enfin bon, bref. Je rêve.
Okay. Peut-être. Moi, j'en suis plutôt à une disparition de l'écran, mais.
Total.
Ouais, enfin après c'est, ouais, je suis un cas un peu particulier. Moi j'ai plus de télé, donc
j'ai un vidéoprojecteur. Ah oui, d'accord, oui. Donc effectivement c'est l'immersif, mais ça t'empêche pas. Tu pourrais très bien avoir plein de cadres Samsung.
Et okay. Dans le côté. Oui.
Alors, il y a un truc aussi qui peut arriver un petit peu en complément de ça, parce que on a beau dire les écrans quand on les regarde de près, c'est pas toujours très jojo. Et on a eu sur l'IFA de la démonstration d'écrans en 8K. Alors, on le rappelle, hein, en gros, le standard aujourd'hui de ce qu'on peut trouver, la HD, la Full HD, dites Full HD chez nous, c'est du 1920 par 1080. On avait de la HD Ready qui était un peu dessous. Aujourd'hui, on a de la 4K et il faut reconnaître que les qualités 4K sont aujourd'hui hyper intéressantes si tant est qu'on ait du contenu exploité en 4K dessus. Mais a été présenté de la 8K qui, là, c'est toujours le même principe. Hein, et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit la 8K vraiment, mais on s'approche doucement mais sûrement de la commercialisation abordable de la 8K. On sait pas trop à quelle échéance, mais enfin bon. Et on voit bien que c'est des écrans qui, de très près, permettent d'avoir une définition très impressionnante. Et du coup, je me dis que marié à des cadres écrans à l'intérieur de chez toi, bah du coup, ça fait complètement sens. Est-ce que la 8K, c'est révolutionnaire, Kassim ? Attention, la question à laquelle on ne peut pas répondre non.
Bien sûr que oui. ça va tout changer. Non, mais alors, oui, c'est vraiment l'étape 2, en fait. Donc, faut savoir qu'on parle de la ultra haute définition. Merci les équipes marketing. Ça comprend la 4K et la 8K, en fait. Donc, la 8K, c'est la deuxième étape après la démocratisation de la 4K qui commence à bien avoir lieu, là, hein, quand même, maintenant. Ouais. Les télés en magasin. Enfin, on peut vraiment en trouver à partir de 500 euros. Bon, voilà. Donc tu voilà, les écrans 4K c'est plus si exceptionnel que ça en, à l'achat neuf. Hein, je parle pas de en parc installé. Et par contre la 8K donc ça arrive et en fait ça arrive plutôt qu'on le pensait. En fait moi c'est ça qui m'a surpris surtout avec les annonces à l'IFA. C'est Sharp qui a annoncé la commercialisation d'une télé dès la fin de l'année au Japon et en Chine. Donc alors on parle d'une télé à 64 000 $ quand même.
Oui. Donc, mais commercialisée.
Mais commercialisé, ça y est, c'est, ça arrive. Genre, on va pouvoir la voir en magasin, bon, au Japon. Mais ça arrive là, avant la fin de l'année, quoi. Genre, dans les 3 mois qui suivent, quoi.
Ça veut dire on pourra s'attendre à voir des télés abordables en 8K. À quoi? Enfin, quelles sont les estimations, les prévisions, les plans de route des constructeurs? Est-ce que ça veut dire qu'à l'été 2018, on pourra espérer, pour moins de 5 000 € s'acheter une télé 8K? Peut-être pas, quand même.
Ça me paraît un peu tôt quand même, quand on parle d'une télé à 64 000 $, passer en 6 mois à 5 000 ou 8 000 $, ça me paraît un peu difficile. Moi, alors, je suis pas très bon pour l'industrie de la télé, donc je serais incapable de te répondre exactement. Mais je sais pas, enfin, j'attends quand même ça. Ça m'étonnerait que ça arrive même dans l'année qui vient, quoi. Enfin, je trouverais ça choquant, quoi. Moi, je m'attends plus quelque chose à... Disons que je m'attends à une télé, à avoir des télés 8K à moins de 1 000 €, qui est le prix vraiment psychologique, je pense, à l'horizon, je sais pas, moi, Noël 2019, 2020.
Et après, la question qu'on peut se poser, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en train de se la poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Alors, ben, c'est comme.
Ah, bien sûr que non.
Plein de choses. Il y a évidemment pas d'intérêt. Non, si on imagine un contenu qui est pensé pour, effectivement, ça a du sens, j'imagine que des jeux vidéo qui tourneraient en 8K, ce serait probablement très immersif et bluffant et qu'on arriverait à des niveaux de rendu et de réalisme qui pourraient être carrément captivants. Mais effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui paraît un petit peu de l'ordre de la prouesse technologique plus qu'autre chose. Allez, plus quand même que de la 3D, je troll un peu, peut-être, à mon avis en tout cas.
Il va falloir attendre la Xbox One XX pour pouvoir y jouer. Je ne sais pas. L'augmentation de la définition, après, bon, faut se dire que c'est une bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que les petits écrans vont augmenter aussi en définition. Ouais. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour la réalité virtuelle. Qui était d'ailleurs, on pourra en reparler rapidement, mais c'est une des tendances aussi de l'IFA pour le coup, le retour de la réalité virtuelle.
Vas-y pour le coup, hein, si tu veux étoffer petit peu ce pan-là de la tech, n'hésite pas.
Bah rapidement, c'est juste Microsoft qui avait déjà annoncé qu'il voulait lancer des casques avec ses partenaires fabricants de PC. Là, ça y est, ils ont annoncé la commercialisation précise. C'est-à-dire que ça arrive en octobre, j'ai plus la date, mais ça arrive en octobre avec la prochaine mise à jour de Windows 10. Et donc c'est des casques à 400 €, donc on est quand même beaucoup moins cher qu'à l'époque de Oculus Rift et de HTC Vive l'année dernière.
Bien sûr.
Donc là on est à 400 €. Et c'est des casques qui ont l'intérêt aussi de régler le problème de difficulté d'installation que pouvaient avoir les anciens casques, justement. Avant, en fait, pour repérer l'utilisateur dans l'espace, il fallait poser des caméras dans son salon, ce qui est pas très user-friendly, quoi. C'est pas très intéressant.
C'est complexe.
Voilà, t'as tout sauf envie de faire ça.
Ça se fait, mais ça fait des étapes en plus qui rendent l'expérience pas...
Puis t'as pas envie d'avoir des caméras qui traînent dans ton salon.
C'est clair.
Enfin, même en dehors de la vie privée, je veux dire, vraiment juste installer des caméras moches dans tes angles.
On parlait de verrues.
Ouais, voilà, ça. Avec les câbles qui traînent partout et tout ça. Donc là, l'intérêt, c'est que tous les capteurs, en fait, ils se sont servis, en fait, de leur travail sur HoloLens. Et ils l'ont appliqué au casque, en fait, à ces casques de réalité virtuelle. Et en fait, t'as deux caméras devant le casque qui permettent au casque de voir en fait son environnement. Et donc, il n'y a plus besoin de ces capteurs externes. Et donc, ça simplifie énormément forcément l'installation. Donc, voilà, c'est vendu à 400 euros avec les deux manettes qui permettent de repérer une sorte de Wiimote, en fait. Bon, des Wiimote très améliorés, mais qui permettent de repérer les mouvements de la main, en fait, dans l'espace, tout simplement. Et donc, Microsoft vend ça comme de la réalité mixte ou de la réalité augmentée, mais c'est vraiment des casques de réalité virtuelle, plutôt. La technologie permet pas encore, je pense, de faire vraiment de la réalité augmentée avec ces casques-là, ou pas de façon très intéressante. Ça a plutôt des bons casques, à mon avis, ça a plutôt des bons casques, bon marché de réalité virtuelle. Donc, ça va peut-être permettre une augmentation du parc installé et de l'adoption de la réalité virtuelle avant une nouvelle génération qui sera peut-être sans fil, parce que là, il y a encore des câbles. Ouais, mais du coup, c'était une grosse tendance aussi du salon quand même, parce qu'il y a eu Dell, Asus et tout ça qui ont tous chacun présenté leur casque avec Microsoft qui venait à chaque fois sur scène pour faire la promotion du casque, quoi.
Ça, c'est rigolo parce que quand je prends du recul avec l'ensemble des sujets de la tech et peut-être en m'éloignant un petit peu de l'IFA et en regardant de manière générale les technos qu'on a autour de nous, j'ai le sentiment qu'on a eu une époque où les évolutions technologiques se faisaient doucement mais sûrement, de manière un peu constante, qu'il y a eu un moment, une période où il y a eu un boom de développement technologique et que maintenant on revient à une époque, et c'est peut-être mon côté vieux con ou parce que je vois les choses différemment aujourd'hui ou parce que mes centres d'intérêt évoluent, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on retombe dans ces technologies qui mettent parfois des années avant d'être convaincantes et qui nécessitent vraiment une maturation de la part du grand public. Bon, on parle des très hautes définitions d'écran, on parle de réalité virtuelle, on nous parle évidemment dans une autre mesure d'intelligence artificielle. C'est des choses dont on parle depuis longtemps et qui n'ont pas bouleversé du jour au lendemain notre quotidien, mais qu'on voit doucement mais sûrement arriver. Est-ce que tu partages un peu cette vision-là ou est-ce que j'ai une vision biaisée des choses au sens large ?
Non, je vois de quoi tu veux parler. Bah, en fait, tout simplement, il y a eu quelques années avec le Big Bang. En fait, le Big Bang, c'était l'iPhone et l'iPad, quoi, qui se sont enchaînés très rapidement.
Je voulais pas le dire parce qu'après, je me fais taxer d'Apple fanboy en disant ça comme ça.
Non, mais c'est ça. Il y a eu. Mais en fait, je pense que. Alors, résumer ça à l'iPhone, je pense que ce serait trop facile. Il y a eu. En fait, je pense qu'il y a eu pas une coïncidence, mais en fait, enfin, l'iPhone plus. Bon, l'arrivée d'Android, évidemment, plus surtout l'arrivée des réseaux 3G puis 4G pour l'Internet vraiment universel et partout, tout le temps, la connexion permanente, quoi. Ouais. C'est vrai, avec l'iPad, les tablettes, tout ça, ça s'est fait en à peine quelques années. Et ça a été aussi le passage, tu vois, pendant ce temps-là, il y a eu le passage à la HD, côté télévision. Et il y a eu avec les consoles de jeux qui allaient avec. Et tout ça s'est modernisé d'un coup. Enfin, le passage aux télé haute définition, ça voulait dire aussi des télés connectées à Internet, soit par une box, soit parce qu'elles étaient elles-mêmes connectées. Enfin, tout ça s'est fait un peu conjointement. Et c'est vrai que ça s'est fait en 3-4 ans comme ça, d'un coup, quoi. Et là, on est revenu sur un rythme un peu plus normal, effectivement, où, par exemple, avant l'iPad, on avait les tablettes. C'est justement, comme tu disais, enfin, comme tu parlais d'Apple, comme ça, en n'osant pas le mentionner, bah, l'iPad, par exemple, c'était pas la première tablette.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Il a fallu 10 ans, en gros, pour que les tablettes deviennent ce que fut l'iPad, en fait.
Ouais, tout à
et
fait.
Et là, on retombe un peu dans ces expérimentations-là avec la réalité augmentée, l'IA, la réalité virtuelle, etc. Et alors, est-ce que ce sera Apple qui lancera peut-être avec AirKit?
Ouais, ou un autre,
Est-ce que ce sera un autre qui aura la bonne idée? Voilà, on ne sait pas. Mais effectivement, on est un peu en train de retomber dans ce cycle normal. C'est vrai que pendant quelques... En plus, je pense que cet effet presque déceptif vient aussi du fait que après la tablette, on avait l'impression qu'il y aurait toujours un nouveau truc qui viendrait refaire le truc. On a cru que c'était la montre connectée ou la télé connectée. Ou, voilà, on a à chaque fois, on se disait ah, ça va être la prochaine guerre Apple télé contre Android télé. Voilà, et finalement, il y en a pas eu vraiment des guerres. En fait, chacun continue un peu dans son écosystème. Puis ça a pas pris. Enfin, je veux dire, les montres connectées, par exemple, je sais pas si.
Bah ça se ressent justement, tu vois, typiquement beaucoup avec les montres connectées. Je trouve, enfin moi j'adore à mon niveau ma montre connectée. J'en ai des usages qui me vont bien. Enfin c'est, je sais pas si je peux parler d'usage, en tout cas ce que j'en fais me plaît. Et c'est marrant de voir qu'effectivement les gens autour de moi quand ils m'interpellent par rapport à ça, c'est d'ailleurs une des premières fonctionnalités que c'est de montrer que qu'on aime bien parler tech ce genre d'appareil. Et ça c'est toujours un très bon usage. Et du coup quand les gens m'interpellent, ils me disent mais concrètement tu fais quoi par rapport à ton smartphone avec ? Et c'est vrai que tu décris très bien le sujet, c'est que je pense qu'on est arrivé après la période du smartphone et des tablettes. D'ailleurs, Tech Café s'appelait Tablette Café parce qu'on était dans la mode des tablettes aussi, heureusement qu'on s'est renommé entre-temps, mais les montres concrétisent ça pour moi. Les gens ont l'impression que c'est un nouvel usage disruptif qui remplace ce qu'on faisait avant. J'utilise beaucoup disruptif ce soir. Mais je crois que c'est pas du tout effectivement le cas, et c'est le cas de très très peu d'appareils. En tout cas, ils vont pas bouleverser la donne rapidement. Ils vont peut-être venir rapidement, mais bouleverser la donne rapidement, c'est pas certain. Et en tout cas, il y a un autre type d'appareil qu'on voit se profiler, et on en a déjà parlé dans Tech Café, et je pense qu'on va continuer à en parler de manière plus large maintenant. C'est les enceintes connectées qui avaient une part belle aussi sur le salon, même s'il y avait rien de très complètement dingue. Cette annonce qui suit, d'ailleurs, on en avait parlé dans le précédent épisode, j'avais parlé du mariage de Cortana et d'Echo. Alors, des enceintes connectées, est-ce que tu penses que c'était quelque chose de marquant, ou est-ce que, là encore, ça illustre cette évolution lente mais sûre vers un avenir connecté avec l'enceinte au milieu de la table basse qu'on nous promet depuis quelques années maintenant ?
Alors, difficile de répondre, mais... Voilà, alors moi j'ai du mal, c'est vrai, en plus j'ai une position un peu particulière, c'est que je suis pas du tout utilisateur ni de Siri, ni de Cortana, ni de Google Assistant et tout ça. Et j'avoue ne pas être du tout convaincu ni par les assistants, le logiciel quoi, ni par les ces enceintes du coup connectées qui ont comme seul intérêt, enfin comme quasi seul intérêt d'être un moyen d'interagir très facilement dans n'importe quelle pièce, enfin la pièce où il y a l'enceinte en l'occurrence. Avec l'assistant sans devoir parler à son smartphone quoi, ou à sa montre. Notamment en fait moi le problème avec les assistants personnels c'est que je trouve qu'ils sont pas encore tu peux pas encore leur parler de façon naturelle en fait. T'es encore obligé d'apprendre des mots clés ou une façon de parler, un vocabulaire particulier, et tu peux pas encore leur demander c'est pas encore Jarvis ou enfin voilà, tu peux pas ne serait-ce que tutoyer l'assistant, par exemple, ou lui parler comme si c'était une personne. En fait, c'est ça que moi j'attends, par exemple, c'est de pouvoir lui dire, hey Google, tu peux, s'il te plaît, me mettre, de la musique, s'il te plaît, ou un truc comme ça, ou allume-moi la télé, s'il te plaît. Il faudrait qu'il soit capable de comprendre que ça, c'est équivalent à, OK Google, allumer télévision numéro 1 dans le salon.
Il y a le côté compréhension, et ça, je pense que les évolutions, pour le coup, le terme est approprié, je pense, à la discussion en termes d'intelligence artificielle, vont faire que ça va inévitablement s'améliorer. Mais il y a aussi le domaine de la reconnaissance de la voix. Alors, les deux sont évidemment intimement liés, mais au-delà de la compréhension de ce qu'il doit faire, la compréhension de ce qu'on dit est effectivement pas bonne. Aujourd'hui, quand on a un assistant vocal et qu'on dicte un texte avec, on peut rédiger un bon pourcentage du texte, mais pas 100%. Et je pense qu'effectivement, tant qu'on sera pas au 100%, les usages seront inévitablement, à un moment ou à un autre, un peu bloqués, quoi. Et ça freine bien les choses.
Là, il y aurait des choses à dire aussi sur la différence entre les langues, parce qu'en anglais, ils ont beaucoup d'avance sur nous, justement, par rapport au français, etc. D'ailleurs, par exemple, Google Assistant vient juste d'arriver en France. Bixby est toujours pas disponible en France dans le cas de Samsung. Cortana est pas disponible sur iOS et Android en France. Et d'ailleurs, c'est un peu un des trucs avec ces assistants, c'est qu'ils mettent du temps à se déployer, ils mettent du temps à progresser.
Alexa est toujours pas disponible en français, si je me
trompe. Ouais, voilà, Alexa, tout à fait, n'est pas disponible non plus en français.
Alexa
d'Amazon. Du coup, ça fait que, par exemple, la moitié des produits qui ont été annoncés à l'IFA, qui, effectivement, c'est une des grosses tendances du salon, c'est l'arrivée des enceintes, en fait, chez les fabricants tiers, en fait. Les Sony, JBL, Harman Kardon, tout ça, ils ont tous annoncé une enceinte connectée qui fonctionne soit avec Google Assistant, soit avec Amazon Alexa pour la plupart.
Ou les deux. Pas encore.
Non, mais ce serait bien par contre.
Ça va pas tarder.
C'est ce qui manque. En misant plus ou moins sur la qualité audio de l'enceinte, tout ce genre de choses. Mais du coup, voilà, il y a la moitié des produits qui étaient pas disponibles, enfin, qui sont pas annoncés pour la France, tout simplement, parce qu'Alexa déjà est pas disponible en France, donc il y avait que les produits Google Assistant qui nous concernaient.
Mais pas en Allemagne non plus, d'ailleurs, paradoxalement, parce que l'allemand, c'est la même punition, j'imagine.
Non, pas du tout, parce que, par exemple, Alexa est disponible en Allemagne depuis plusieurs mois, depuis longtemps même.
Ah, bah, autant pour moi. J'étais convaincu qu'il était dispo qu'en anglais, moi, tu vois.
Non, et Google Home, pareil, était arrivé beaucoup plus rapidement en Allemagne.
En fait, ils aiment pas les Français, c'est tout, c'est pas.
Bah, bon. Alors, franchement, je sais pas pourquoi privilégier l'Allemagne par rapport à la France, ça m'étonne un peu pas parce que par chauvinisme ou pour dire que la France est mieux ou quoi, mais tout simplement parce que la francophonie c'est quand même plus répandu que l'allemand.
Germano.
T'as vu, je m'y suis pas risqué.
Moi non plus, je m'y risquerais pas, tu penses.
Que c'est beaucoup plus répandu a priori le français que l'allemand dans le monde quoi. Notamment à cause de notre passé sombre et peu glorieux. Bref, non, je vais rentrer dans les détails. Non mais tout ça pour dire que voilà, bon ça fait des progrès, c'est une des grosses tendances du salon mais on n'en est pas encore là. Et puis voilà, et puis il y a aussi HomePod d'Apple en embuscade, même si bien sûr il n'était pas au salon, mais dont on attend encore la sortie, quoi.
Eh ben, on attend impatiemment l'arrivée de tous ces assistants dans notre salon, pas forcément celui de Kassim. Et puis allez, un dernier mot, parce que c'est toujours le genre de choses qui sont rigolotes, qui prêtent à sourire, même s'il y a quand même un fond de frustration. Il y avait sur Numérama un article que vous avez rédigé, qui est signé de Julien Cadeau, le rédacteur en chef, qui dit les trois choses qu'on aimerait plus voir en 2018 dans des salons tech. On les énumère vite fait. En gros, machin Star Wars. Donc, en gros, vous mettez n'importe quelle technologie récente et vous collez Star Wars en espérant pas vous faire spoiler sur des personnages clés du prochain épisode qui sort à Noël. Des objets connectés mal sécurisés. L'exemple est donné de biberons connectés qui communiquent des informations pour de la data. Donc, pourquoi pas avec Philips. Mais cela dit, effectivement, il n'y a pas un mot sur la sécurité. Alors peut-être que justement c'est tellement une évidence qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Et j'arrive à me demander d'ailleurs si c'est pas aussi un biais, c'est que je pense que la façon dont on communique sur les choses font que quand on parle de sécurité, on a tout sauf envie de penser que c'est sécurisé. En gros, quand on te dit qu'un appareil est sécurisé, quand on te donne des normes, quand on te donne un process de fabrication, t'as qu'une envie, c'est d'aller chercher le hacker ou la personne qui sera suffisamment maligne pour craquer le truc parce que rien n'est inviolable. Du coup, j'arrive à me demander si une des façons de présenter les choses pour les constructeurs maintenant, c'est pas justement d'éviter le sujet. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas, je comprends peut-être la démarche si elle est réfléchie. Et puis enfin, depuis le temps qu'on en parle, des robots qui sont pas vraiment des robots, mais qui ont des tablettes tactiles enfichées à la place de la tête, qui affichent des choses, qui d'ailleurs sont parfois assez flippantes.
Oui, un peu. Oui.
Toujours assez dérangeant. Ça donne un avenir et un futur peu glorieux, je trouve, parfois. Mais bon. Est-ce qu'on a fait le tour de l'IFA, Kassim ?
Oui, je pense.
En tout cas, des grandes lignes.
Ouais, bah c'était, et encore une fois, c'était pas un seul, enfin, c'était pas une édition très marquante, mais je pense que, souligne assez bien ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les technologies un peu arrivent à maturité et on est plus sur un cycle, régulier et tranquille que vraiment des révolutions technologiques. En tout cas, elles ont pas l'air d'arriver au salon, en tout cas.
Jusqu'à ce qu'on nous présente quelque chose de complètement dingue qui va contredire ce qu'on aura dit peut-être 6 mois plus tard, on verra.
Bien sûr.
Allez, on enchaîne. Comment?
J'adorerais, ce serait très bien.
Ce serait beau. Allez, on enchaîne avec d'autres news qu'on va traiter sans doute un petit peu moins en profondeur. En préparant l'émission, tu as voulu rajouter, on en a parlé juste avant de débuter l'enregistrement, effectivement, c'est plutôt propice, une annonce assez pertinente d'aujourd'hui, je crois, tu me disais, de Xiaomi. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il retourne exactement ?
Oui, c'est tout frais. Donc Xiaomi, le fabricant chinois qui s'est fait une réputation en vendant des produits. Alors, ils vendent en les vendant pas en France, mais en les vendant justement, enfin, en étant accessible que par de l'importation, mais avec en misant sur le rapport qualité-prix, voilà, et en se faisant un nom en Chine et en Inde principalement. Donc c'est une marque quand même qui devient de plus en plus populaire. Et qui s'était fait aussi connaître un peu pour ses designs qui vont chercher des fois un petit peu du côté d'Apple, un peu. Et donc là, ils ont annoncé un nouveau produit qui est assez intéressant et qui marque un tournant, en tout cas, en partie pour leur stratégie, qui est le Xiaomi Mi 5A. Mi A1, on va y arriver.
Mi A1, ouais.
Oui.
Le Xiaomi Mi A1.
C'est moi, c'est moi qui me suis gouré dans les notes. Qui est en fait, A1, c'est pas pour rien, c'est pour Android One, puisque c'est le système d'exploitation qui anime le téléphone. Alors, Android One, pour rappeler rapidement ce que c'est un Android développé par Google, vraiment l'Android pur, en fait. Enfin, c'est quasiment le même que celui qu'on trouve, par exemple, sur la gamme Pixel. Et en fait, c'est un système, finalement, c'est Android, quoi. Il s'appelle juste comme ça parce que c'est un programme mis en place par Google pour convaincre certains fabricants de lancer des téléphones avec un Android pur. Dans le but d'avoir des bonnes performances, surtout sur des smartphones bon marché, et en particulier pour les marchés émergents, en fait, en particulier l'Inde et le fameux prochain milliard d'utilisateurs que les sociétés high-tech visent toutes, qui est donc le prochain milliard d'utilisateurs qui vont bientôt acquérir un smartphone ou qui sont en train d'acquérir un smartphone. Et
Pour être bien clair, est-ce que c'est, enfin, pour bien être sûr d'avoir compris, Android One, qu'est-ce qu'on entend par Android One et Android 8.0 dit Oreo? C'est quoi la différence entre les deux?
Alors en fait, Android One, c'est vraiment un nom de programme. En fait, c'est le nom d'un accord entre Google et les fabricants. Mais derrière Android One, un smartphone sous Android One, en fait, il tourne sous Android 7.0 ou Android 8.0 ou que sais-je, peu importe. Juste, ça veut simplement dire que le téléphone a été conçu en partenariat avec Google pour la partie logicielle, quoi. Avec Google a vraiment pu aider le fabricant à intégrer comme il faut Android. Et donc logiquement, ça veut dire des mises à jour de sécurité en temps et en heure chaque mois. Et des mises à jour vers les nouvelles versions majeures, justement, rapides. En l'occurrence, là, le nouveau Xiaomi, il est lancé sous Android 7.0, enfin 7.1.2 pour être précis. Et ils promettent Nougat. Nougat. Et ils promettent une mise à jour vers Android 8.0 Oreo avant la fin de l'année. Et ils promettent même, ils parlent déjà de Android P, donc celui qui sera lancé l'an prochain. Et ils disent que ce sera l'un des premiers smartphones à y avoir le droit. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de se rapprocher de la même idéologie que j'ai envie de dire que les Pixel ou que les Nexus à l'époque. Donc c'est-à-dire des téléphones avec l'Android pur et sans surcouche, sans interface fabricant et mis à jour régulièrement, fluide, etc.
Alors,
justement, c'est un tournant pour Xiaomi qui jusqu'à présent en fait utilisait son propre système d'exploitation. Qui était MIUI, qui est une sorte de, en fait, qui était un dérivé d'Android, mais qui avait pas le Play Store, qui avait pas les applications de Google, en tout cas pas par défaut. Et c'était vraiment, ils prenaient le code source d'Android, qu'on rappelle est open source, et ils en faisaient leur propre système et ils le customisaient, ils le personnalisaient tellement qu'en fait ça ressemblait presque plus à Android, ça avait ses propres fonctions, ça avait son propre rythme de mise à jour, ça ressemblait d'ailleurs, l'interface ressemblait beaucoup à iOS. Et c'était vraiment devenu son propre quelque chose d'assez séparé. Et c'est d'ailleurs pour lutter contre ces systèmes-là que Google a lancé Android One, parce que les téléphones sous MIUI, en fait, c'est des téléphones qui n'avaient pas les applications Google, donc pas le Play Store. Donc ça veut dire des bénéfices en moins pour Google, puisque c'est tout le modèle économique d'Android repose sur la vente d'applications, la vente services de Google et le tracking des utilisateurs. C'était pour lutter contre ça qu'ils ont lancé ce programme-là de mise à jour avec Android One. Et donc ça en fait un téléphone assez unique qui risque bien de devenir rapidement le meilleur rapport qualité-prix du marché et finalement un peu le successeur de ce qu'étaient les Nexus à l'époque, en fait.
J'allais le dire, en fait c'est hyper rigolo que tu cites ça parce que c'est pas un hasard évidemment, mais j'avais une personne à qui j'avais, qui est une très bonne amie, à qui j'avais revendu mon Nexus 5 de l'époque, que je trouvais un excellent smartphone, et elle s'en servait encore aujourd'hui avec les mises à jour et avec les usages qu'elle en avait qui lui allaient très 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 bien. Et elle m'a dit, je le remplace par quoi? Parce qu'avant, il me semble qu'elle avait un Nexus 4 juste avant. Donc 4, 5, 6 alors. Et puis, non, parce que quand tu vois Nexus 6, déjà, c'était pas la même philosophie. C'est quoi maintenant? Alors, Pixel, Pixel, en termes de gamme de prix, ça va pas le faire. Et finalement, il n'y avait pas, à mon sens, de successeur de ces smartphones pur Android avec un rapport qualité-prix très intéressant. Et je trouve ça, d'une part, génial que ça arrive. Je trouve ça vraiment très convaincant, même pour l'écosystème Android en tant que tel. Et je trouve ça assez déroutant, mais peut-être que c'est une méconnaissance de ma part, que ce soit que Xiaomi qui soit le premier acteur à se lancer de manière aussi convaincante et aussi affirmée dans cette stratégie-là. Mais tant mieux, et moi je connais pas mal de monde autour de moi qui sont des personnes justement qui ont tendance à se tourner parfois vers des Wiko ou des appareils Android avec des surcouches, mais parce qu'ils ont des bons rapports qualité-prix par rapport à plein d'usages, je risque de leur conseiller de se tourner vers ce type de solution qui me paraît beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus de l'ordre de l'investissement à long terme et beaucoup plus proche des usages qu'on peut avoir en tant que vrai être humain aujourd'hui, quoi.
Ouais, vraiment, va falloir surveiller l'importation, enfin les aléas de l'importation. Bon, c'est le problème de la distribution, c'est que bon, ça veut dire potentiellement un service après-vente en moins ou ce genre de problème. Mais après, sur le papier, effectivement, bon, on parle d'un smartphone qui va coûter moins de 200 €, hein, et qui intègre, tout ce qu'on veut d'un smartphone moderne. Et c'est pas aussi haut de gamme que les Nexus à l'époque dans leur gamme de prix, mais pour autant, enfin, c'est un écran 5,5 pouces Full HD, 64 Go de stockage,
c'est un port double USB. Caméra, 13 mégapixels. Voilà. Enfin, il y a des choses très convaincantes quand même. Hein.
Port USB Type C, design tout en aluminium, unibody. Enfin, c'est à s'y méprendre avec un iPhone 7 Plus quand même en termes de design, quoi. Avec le lecteur d'empreintes, etc. Enfin bref.
Au dos.
Ouais, au dos. Mais enfin voilà, c'est pour la petite histoire, en fait, c'est le Xiaomi Mi 5X qui était déjà lancé en Chine, en fait. C'est le même téléphone, juste le logiciel est différent, quoi. Donc voilà.
En sachant que, en fait, je suis en train de réaliser, tu sais, tous les leaks qu'on a des futurs iPhone, là, il y a eu des châssis qui apparaissaient pendant un temps avec des lecteurs d'empreintes digitales au dos. En fait, c'était les maquettes de Xiaomi, hein, cherchez pas plus.
Ça. C'est peut-être ça. Peut-être.
Bon, un petit mot pour parler d'intelligence artificielle, parce que c'est évidemment à la mode et on en parle très très souvent dans Tech Café. Je crois qu'il se passe pas un seul épisode sans qu'on en parle. Pour dire que là, au niveau des États, ça reprend encore une dimension supplémentaire. Bon, d'une part, Cédric Villani, notre mathématicien préféré, désormais député de La République En Marche, s'est vu confier une mission d'information d'ici la fin de l'année sur l'intelligence artificielle. Alors c'est intéressant parce que moi c'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment qu'un homme politique soit investi d'un sujet technologique en me disant bah ouais, lui il est bien placé pour plancher sur le sujet. En tout cas, je pense qu'il a les ressources et il a la connaissance d'un certain nombre de tenants technologiques. Est-ce qu'il a en tête d'autres tenants qui pourraient être liés à l'intelligence artificielle comme j'en sais rien, la vie privée, comme les usages, etc. J'en sais rien. Je suis pas en train de sous-entendre que Cédric Villani n'est qu'un mathématicien qui ne sait faire que des équations bizarres à la craie sur son tableau, parce que il suffit de se plonger un petit peu dans ce qu'exprime le personnage pour comprendre que il est bien plus que ça et il est plus normal que ce qu'on pense, même si ça son araignée bizarre. Bon bref, je rentre dans les détails. Je pense qu'il est très bien placé pour bosser sur le sujet et donc c'est bien de voir ce genre de choses lancées parce que des précédents gouvernements, on n'avait quand même pas la chance d'avoir des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient sur les sujets de la tech, donc ça c'est cool. Et puis on a aussi un Vladimir Poutine à son niveau, donc on change un petit peu d'environnement, qui voit dans l'intelligence artificielle, la clé pour qu'un État domine le monde demain, donc c'est d'autres façons de présenter les choses. En tout cas, il a très bien perçu l'importance que ça pourrait avoir et on comprend bien qu'ils mettent très vraisemblablement le paquet aussi là-dessus. Et donc évidemment, Elon Musk qui, alors je paraphrase un petit peu ce qu'il dit, qui réagit mais par rapport à tout ça en disant en gros je vous l'avais bien dit que ce serait le bordel avec cette histoire d'intelligence artificielle et qui entre-dessine le fait que ça pourrait provoquer une troisième guerre mondiale et qui revient à solliciter activement pour que tout le monde se parle main dans la main pour discuter de ce genre de choses à l'heure où il y a a priori une bombe H qui aurait été utilisée lors d'essais par la Corée du Nord. Elon Musk dit ouais, enfin c'est pas ça le plus grave, c'est pas ça le plus dangereux pour l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Tu suis ça toi aussi, Kassim, j'imagine. Est-ce que t'as l'impression qu'on passe à une étape supplémentaire où les États commencent à s'approprier doucement mais sûrement ce sujet?
Oui, tout à fait. Bon, alors Elon Musk quand même qui tempère la Corée du Nord. Bon, des fois il est gentil, mais des fois il est comment dire. Oui, c'est bien l'IA.
Il est curieux
grave,
ce personnage. Hein.
Mais oui, bah tu sens qu'il oui, il est curieux.
Et je pense qu'encore une fois, quand tu prends les choses en perspective d'un livre d'histoire, je pense que oui, je comprends ce qu'il veut dire.
Non, sauf mais bien que, sûr que bon. Je comprends. C'est un épiphénomène. Enfin, la Corée du Nord dans l'histoire de l'humanité, ça va être un épiphénomène. Oui, d'accord, mais. Mais bon, bref, je sais pas si tout est comparable, quoi. Je sais pas si quand t'as une bombe nucléaire qui te passe au-dessus de ta tête, t'as vraiment.
Je pense que t'en as rien à branler de Watson, quoi.
Oui, je sais. Voilà, c'est ça. C'est bon, ça te paraît peut-être un petit peu plus lointain. Bref, mais toujours est-il que oui, effectivement, les États sont clairement en train de s'approprier le sujet. Toute la question est quid de l'Europe, quoi. Enfin. Bon, quid de plein d'autres pays, hein, l'Afrique, tout ça, mais enfin, qui est pas un pays d'ailleurs, désolé.
Les pays d'Afrique, je voulais dire.
Mais les pays d'Afrique, tout à fait. Mais quid de l'Europe, quoi, qui est, parce que nous, on a un peu
en
vu
tant
passer.
En tant qu'entité qui coordonnerait les États européens, tu veux dire, ou qui en tout cas fédérerait les États européens sur ces problématiques.
Oui, et puis même sur le fait qu'on a aucun géant, on a toujours aucun géant de la tech, hormis OVH et Free, quoi. Et feu Nokia et donc on a ni Google, Microsoft, Apple, tout ça d'un côté qui sont en train de parce que le problème en fait ce que je veux dire c'est que la base de l'intelligence artificielle le problème c'est que c'est la data et qu'on a toujours pas de data en Europe quoi.
Ouais,
la data elle est en Chine, elle est en Russie, elle est aux États-Unis quoi. Et d'où ça nous est un peu passé sous le nez sur les 10 dernières années et le souci c'est que l'intelligence artificielle c'est pas un changement de paradigme, c'est de la continuité en fait d'un truc qui était déjà lancé en fait. Et donc le problème c'est qu'on a un épisode de retard, donc il va falloir rattraper cet épisode de retard et c'est un peu tout le souci. Donc c'est très bien là pour le coup, je suis pas forcément tout le temps d'accord avec notre gouvernement actuel, mais s'il y a bien un truc où j'espère qu'il peut où je peux être d'accord ou j'espère pouvoir être d'accord, c'est son ambition de reprendre un peu le lead en termes d'innovation et d'aller pousser un petit peu l'esprit startup, voilà, l'entrepreneuriat et éventuellement essayer de créer des futurs géants si possible quoi.
On peut imaginer donc, qu'ils en aient en tout cas l'envie et on va voir si ça se concrétise.
Disons que je pense qu'ils en ont l'envie avec un peu plus de proximité avec la réalité par rapport à nos précédents gouvernements quoi.
Ouais. Qui voyait ça peut-être d'un œil un peu distant en se disant peut-être que ça arrivera demain. Mais... Bon, écoute, très bien. Juste un petit mot hein, pour préciser que la mission de Cédric Villani, elle n'a pas nécessairement d'objectifs concrets en termes de propositions. Enfin, c'est en tout cas une analyse, une restitution. Et je pense que c'est bien à l'échelle de premier mois, dans un premier temps, de faire une photographie de ce qui existe, de ce qui se passe. Voilà, un état des lieux. Bon, juste un petit mot, ça va aller très très vite pour dire que Microsoft subit un redressement fiscal de quand même 600 millions d'euros en France sur son activité publicitaire.
La petite monnaie.
Du menu fretin, d'aucuns diraient. Bon, je pense que ça vaut pas le coup de détailler plus que ça, mais c'est quand même des sommes assez importantes pour des condamnations. On va voir évidemment ce qui va se passer par la suite. Un petit mot sur quelque chose qui m'a interpellé par rapport au paiement par visage en Chine. C'est une implémentation d'un KFC chinois, donc c'est pas KFC, hein, mais c'est l'équivalent de KFC en Chine, qui propose un paiement par visage. Donc ça s'appuie sur un système de paiement en ligne qui s'appelle Alipay, qui a été créé il y a une quinzaine d'années par le groupe Alibaba. Et en gros, si vous avez enregistré votre photo, vous avez qu'à sourire devant la caméra. On vous envoie, je crois, un code a posteriori que vous devez saisir quand même pour confirmer que c'est bien vous. Mais en gros, l'algorithme vous reconnaît, même si vous portez des lunettes, même si vous avez de la barbe, même si vous avez une perruque. En gros, on vous reconnaît vraiment bien et il vous suffit de sourire pour payer votre commande. Je trouve ça, du coup, alors à la fois, je trouve ça un peu flippant parce qu'il y a un côté inévitablement, même si pas tant que ça quand on creuse, mais quand même un peu. Il y a un côté un petit peu Black Mirror, et en même temps, ben moi je trouverais ça chouette de pouvoir payer avec mon visage. Ça te réjouit ou ça t'inquiète ce type de technologie qui arrive, Kassim?
Je sais pas vraiment, mais par contre, enfin ça m'interpelle quand même, et surtout, enfin je trouve ça marrant en fait de voir à quel point la distribution, et en particulier les fast-food, je trouve évolue très rapidement justement depuis quelques années en termes de bah, d'essayer de repenser la commande, de repenser le paiement, etc. Enfin, par exemple, enfin, je sais pas si ça t'arrive d'aller à McDonald's. Mais
évidemment.
De voilà, ça m'arrive voilà à l'occasion et
je
c'est marrant.
Je connais les jeux Happy Meal, moi, monsieur.
Ah, ok. Et c'est marrant, j'ai l'impression que. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais à McDonald's, en fait, le système change, le paiement change. Enfin, ils ont vraiment, il y a le paiement PayPal, il y a le paiement par smartphone, il y a le paiement NFC, bien sûr.
Il y a le scan du code barre dans ton appli
voilà,
McDo pour cumuler des points.
Maintenant, ils peuvent te servir à ta place. Enfin, dans le centre-ville de Toulouse, maintenant, il y a des McDo, il y a plus de caisses, en fait. Enfin, c'est que les caisses, les bornes, machin, et la caisse, c'est juste pour retirer la commande, quoi. Il y a plus donc c'est je trouve ça fascinant comment en quelques années ils arrivent à se renouveler et à pas rester endormis comme certains ont pu l'être je pense et peut-être pas attendre justement de se faire disrupter comme ce mot est à la mode.
C'est disruptif cet épisode.
Voilà.
Mais tu sais, je crois que en fait il faudrait peut-être même qu'on aille plus loin dans ta réflexion, je crois que s'ils sont aussi bien placés pour le faire, c'est que c'est dans leur ADN, parce que dès le départ, le concept même de cuisiner et de servir une cuisine a subi cette même révolution. Alors, il n'y avait pas nécessairement des technologies informatiques dedans, mais le simple fait qu'il y ait des postes bien déterminés, qu'il y ait des alignements de produits qui soient réalisés dans tel laps de temps, qu'ils aient optimisé tel poste, telle distribution. Finalement, je pense que c'est la raison même, même d'un fast-food. Et t'as complètement raison. Ce sont des algorithmes, pas informatiques, mais ce sont des algorithmes optimisés en permanence. Et effectivement, maintenant, je pense que la prochaine étape avant de virer totalement les humains, c'est effectivement d'innover dans ce type de technologie, quoi. Ça, c'est clair. Bon, un petit mot aussi pour dire qu'il faut que vous alliez changer pendant qu'on prépare nos bonus. Allez donc changer votre mot de passe sur Instagram. C'est la dernière faille de sécurité qui a impacté une fuite de mails et de numéros de 6 millions de comptes pour Instagram qui sera en vente libre. Donc voilà, si vous avez 2-3 minutes là pendant que vous nous écoutez, allez donc changer votre mot de passe Instagram, ça vous fera du bien. Sans autre forme de procès, une fois de plus, on passe au bonus. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Kassim, pour tes bonus de cet épisode de rentrée?
Voilà, tu dis ça comme si ça allait être quelque chose de super positif et tout, et alors que ça va être plutôt être un coup de gueule, quoi. je vais faire court quand même. Du coup, cet été, il y a eu une série télé qui a été diffusée aux États-Unis qui s'appelle Game of Thrones.
Je sais pas si tu en as parlé. Ça parle de quoi?
Ça parle de dragon et de zombies. Tout ça pour dire que donc a été diffusée en France quasiment instantanément ou à quelques heures d'intervalle sur le service français OCS, le service de Orange, qui est une sorte d'équivalent de concurrent de Netflix avec quelques séries. Et surtout, justement, les séries de HBO. Donc, il y a Game of Thrones, il y a VIP, et il y a surtout tout le catalogue HBO, quoi. C'est un peu sur ça qui compte.
C'est surtout ça, ouais. C'est pas HBO France, mais...
Quoi. Et il y a surtout Game of Thrones, quoi. Qui est un peu le seul truc... j'ai l'impression c'est un peu...
Il y a d'excellentes séries aussi.
Non, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres bonnes séries. Je veux dire qu'ils misent clairement, c'est leur truc, quoi.
C'est leur tête de gondole, ouais.
Oui, clairement, quoi. C'est comme ça qu'ils gagnent des abonnés, quoi, je pense.
Bien sûr. Et qu'ils en perdent quand la série est terminée, mais...
C'est ça, bah, dont moi. Alors pas forcément parce que la série était terminée, quoique, mais parce que j'ai pas été très content du service, dans le sens où, enfin, je pensais pas qu'on pouvait faire encore. Enfin, je pensais pas qu'avec après Netflix, en fait, on pouvait faire quelque chose d'aussi mauvais. Enfin, mon expérience était vraiment pas bonne. Alors d'une part, je me suis abonné par mon forfait mobile. Alors déjà, ça veut dire que quand tu t'abonnes, en fait, quand tu te connectes à OCS, ils te demandent par quel moyen tu t'es abonné.
Ouais.
Et t'as une liste longue comme le bras de distributeurs.
Ouais, c'est vrai.
Ensuite, je me suis abonné par le mobile, ce qui apparemment veut dire que je n'ai pas le droit de regarder OCS sur ma box Android télé. Ce qui, enfin, par exemple sur Netflix, c'est clairement dans l'ADN de Netflix que tu regardes où tu veux, tu reprends l'épisode comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Bon là, voilà, c'est limité à, enfin, je sais pas trop quelles sont les limites, puis enfin, c'est un peu compliqué de gérer ton abonnement. Et donc j'avais pas le droit de la regarder sur la télé. Bon, très bien, je regarde sur mon ordinateur. Et le service ne savait pas où j'en étais de l'épisode, il savait pas où j'en étais de la saison. Donc il sait pas te faire, enfin et voilà, à chaque fois je devais choisir à la main. Et c'est pas des grandes critiques, hein, sinon au-delà de ça, ça marchait bien. Bon, si ce n'est que lors de la diffusion du dernier épisode de la saison de Game of Thrones le soir, le service était en rade et a coupé au milieu de l'épisode avec un message d'erreur disant que trop de personnes regardaient sur mon abonnement en fait. Enfin,
Ah oui,
trop
d'accord, le
d'abonnés.
nombre d'écrans simultanés
Ouais. Voilà,
était
était
dépassé.
dépassé, ce qui n'était pas le cas, et du coup j'ai cru à un piratage de mon compte qui du coup était mon compte. Enfin, du coup je me connectais avec mon forfait mobile, donc ça me faisait un peu peur que mon forfait mobile puisse avoir été piraté. Bon,
Ouais,
il se
tu
trouve que c'était juste le service qui était saturé, et en fait du coup le message d'erreur était pas le bon. Mais du coup, bah ça fait un peu tout ça cumulé, fait que bon, en fait finalement, d'autant qu'il n'y a pas 46 000 trucs qui m'intéressent sur OCS
OCS.
parce que le catalogue, bien qu'il y ait aussi d'autres bonnes séries que Game of Thrones, bah, est pas si grand que ça, je trouve. Le catalogue était pas si important que ça, et donc en définitive, j'ai décidé de résilier mon abonnement, donc il aura duré 2 mois, quoi, le temps de la saison. Et en plus, j'ai fini du coup la soirée où je regardais le dernier épisode. Bah, en fait, ce que j'ai fait, vu que le service était en rade, bah, c'est que je suis allé télécharger légalement en 1 minute, même pas. Il était téléchargé en Full HD, en très bonne qualité, avec les sous-titres qui vont bien. Et j'ai fini de regarder l'épisode, et puis voilà, ça marchait très bien. Hein.
Et en fait, c'est très intéressant ton retour, parce que moi j'avais le sentiment, en passant que par ma lucarne, qu'on avait justement franchi une étape. Je pense quand même, je pense qu'on tombera tous les deux d'accord sur le fait que le piratage n'a plus une importance aussi grande qu'il avait il y a de ça quelque temps. Pour autant, effectivement, t'as raison, ça reste quelque chose de dérangeant parce que les services qui nous sont mis à disposition sont pas encore optimum, soit il y a des problèmes de catalogue, soit des problèmes technologiques. Moi, pour ma part, en fait, il faut toujours parler un petit peu de son Game of Thrones, c'est toujours important. Moi, en l'occurrence, tu vois, j'ai souscrit à OCS via l'option Molotov.
Ouais.
Et il y a un
OK.
truc que j'ai trouvé carrément bien parce que comme je suis papa, j'ai des enfants qui se couchent à des heures parfois variables selon leur énervement, état d'énervement de fin de journée. Et donc, on n'est pas garanti d'être dispo à 21h parce qu'on le regardait à l'heure de diffusion française. On n'était pas totalement sûr d'être dispo à 21h pile. Et du coup, la fonctionnalité de bookmark avec Molotov et la fonction de lancement des épisodes fait qu'en fait, ça marchait super bien, je dépendais bizarrement pas d'OCS et ça marchait pas mal. Bon, j'ai compris après quand même qu'il y avait le replay hein, qui était disponible à peu près en même temps que le bookmark de Molotov. Donc je voilà. Mais moi aussi je me suis abonné à OCS. Moi aussi j'ai résilié en fait dès que la série s'est terminée. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait The Walking Dead qui était dispo maintenant dessus. Il y a quand même un truc, c'est que moi je n'ai plus envie maintenant dans ma vie au quotidien, dans ma consommation de multimédia, d'utiliser, c'est con, hein, mais un clavier et un ordinateur pour aller consulter de la vidéo. Moi, j'ai besoin que ce soit dispo sur ma télécommande, sur une tablette, mais j'ai plus envie d'utiliser un clavier. Et je crois que c'est là où il y a peut-être une évolution sur les usages, c'est que je pense que les personnes qui sont ouais, de la génération des années 80 comme moi, on arrive à un stade où on est tellement habitué à utiliser des trucs touch maintenant qu'on n'a plus envie de consacrer du temps à aller chercher des torrents, à aller streamer des trucs, etc. Je me trompe peut-être, hein, et il y a probablement la situation familiale, le temps qu'on consacre à ce genre de trucs, etc. Mais moi, j'ai le sentiment vraiment que le piratage, c'est vraiment un truc qui m'insupporte maintenant. Alors, il n'empêche que si, il m'arrive quand même de continuer à télécharger des trucs pour les mettre sur mon serveur Plex parce que justement, je regarde des choses avec mon fiston, mais j'ai pas ce même constat que toi, en fait. Je trouve que justement, l'offre légale est devenue très très satisfaisante. Je crois aussi qu'il y a le côté exceptionnel de Game of Thrones qui fait que ça t'a planté ton dernier épisode. T'aurais peut-être pas le même ressenti si jamais ils avaient mis suffisamment de tuyaux, peut-être.
Ben, non, mais j'étais déjà, enfin, par ailleurs, j'étais déjà pas fort. Bon, mécontent, c'est un mot un peu fort, mais j'étais
Frustré.
déjà, enfin, déjà, le service, je trouvais ça un peu, et c'est pas vraiment par comparaison avec le téléchargement illégal, mais vraiment par comparaison avec ce que fait Netflix, je trouvais
D'accord,
le service
ouais,
moins
d'accord.
fluide et moins
Bien sûr.
intuitif, moins transparent. Voilà, Netflix arrive à se faire oublier quand tu commences à regarder une série. Je trouve que OCS n'arrivait pas à se faire oublier à ce point-là. Tu sentais encore que c'était un service français
C'est
et qu'ils
vrai,
n'avaient
c'est
pas
vrai.
encore pu développer,
Non, mais
enfin,
ton.
dans le mauvais sens du terme.
Ton.
Après, bon, pour le téléchargement illégal, on en avait déjà parlé en fait dans un précédent épisode et je suis assez d'accord avec toi que c'est vachement passé de mode entre guillemets et que d'une part, l'offre légale est devenue assez bonne pour en fait devenir plus simple des fois que le téléchargement illégal ou moins. Voilà, t'as plus la flemme. Ouais, tu vas avoir la flemme de télécharger illégalement et tu vas préférer l'offre légale. Ça veut dire que l'offre légale fonctionne. Le deuxième truc, c'est qu'en plus le téléchargement illégal, bah, mine de rien, Adopi, on a pu s'en moquer et tout, a quand même fait des. Enfin, c'est pas tant Adopi, mais c'est plutôt le fait que bah, des sites ont fermé successivement. Et donc, au final. J'ai l'impression que les ayants droit ont gagné une certaine des batailles quand même assez importantes qui font que bah du coup ça augmente le poids de télécharger quelque chose illégalement, c'est que c'est plus compliqué, c'est faut savoir où chercher, etc. Bon, tout ça l'un dans l'autre fait que oui, je suis d'accord avec toi que l'offre légale a du mieux et devient plus simple à utiliser et on l'utilise de plus en plus. Je suis d'accord, c'était juste c'était pas contre l'offre légale en général, c'était plutôt contre cette offre particulière qui, selon moi, a pas encore tout compris de ce qu'on attend d'un service en 2017, quoi.
Un exemple tout bête que tu décris et qui peut paraître anecdotique comme ça, mais qui est agaçant. T'as raison, tu lances Netflix, il sait où tu t'es arrêté, il te propose de regarder
Voilà,
la
c'est ça.
suite. OCS, effectivement, il te repropose par défaut en premier la saison 1, épisode 1 de Game of Thrones,
Oui, c'est
quoi.
ça, quoi.
C'est un peu frustrant.
Voilà, c'est un détail, hein, mais c'est.
Mais c'est une somme de petits détails qui font encore, pour l'instant, la différence. Je voulais juste relayer les services clients. Ce matin, j'ai fait pas mal de petites démarches, moi, de mon côté. Ça va être mon bonus. J'ai contacté notamment Carrefour. Enfin bon, j'ai contacté plusieurs enseignes pour des besoins divers et variés. Et j'ai été complètement estomaqué de voir qu'encore aujourd'hui, en France, quand on est en interface avec tous ces services-là, on peut passer 20 minutes à attendre une musique d'attente, être baladé. Parfois deux, trois, quatre services différents pour qu'on te dise à la fin de rappeler le numéro que t'as composé au début, et puis pour avoir des personnes encore aujourd'hui, c'est dingue, mais mal aimables. Tu continues aujourd'hui en appelant des grandes marques à avoir des services pour lesquels les gens en face, bah, limite, t'as l'impression de les embêter, quoi. Et je trouve ça assez dingue qu'on n'ait pas un petit peu plus cette culture de l'autre, cette culture du client qui nous est si cher et qu'on apprécie dans plein de marques à l'international et qu'on n'arrive pas à avoir en France. C'est un peu frustrant.
Je partage ta frustration. Enfin, je connais ça. Enfin, oui, il y a plein de services français où quand tu appelles, ne serait-ce que les opérateurs ou quoi, tu appelles les services clients ou voilà, t'as l'impression de les embêter. Ou enfin, et puis t'as effectivement ce côté où tu sais jamais quel service il faut appeler et puis t'as l'impression qu'on va te balader de truc en truc. Ils se passent la balle. T'as l'impression et puis où la personne te répond et faut qu'elle te fasse défiler tout un cheminement
C'est ça.
où tu sais pertinemment que c'est pas ça qui va régler ton problème, mais bon voilà, t'es obligé de faire tout ce qui est faut dans l'ordre pour que elle puisse te passer à la personne au-dessus qui elle va enfin pouvoir peut-être faire quelque chose. Et c'est surtout, enfin nous en fait, je pense qu'en plus ça nous choque par contraste en fait avec c'est vrai que la culture du service client dans les pays anglophones, les États-Unis en
Ah, c'est
particulier.
ça.
Est complètement différente et en fait aux États-Unis enfin et ça se sent avec même les services français de certains services services étrangers
Oui.
où en fait tu vas appeler et tout de suite ça va être on vous le remplace, on vous le change,
Exactement,
on
ouais.
vous fait ça gratuitement. Ouh là là, bah ne serait-ce que je pense que le meilleur exemple et l'exemple le plus simple c'est Amazon avec leur retour où oh là là là, vous inquiétez pas, on vous imprime votre étiquette Colissimo enfin imprimez cette étiquette Colissimo, c'est à nos frais, pas de souci, vous nous le renvoyez voilà. Et c'est les trucs qui donnent envie de rester client en fait et je sais pas pourquoi il n'y a pas cette culture-là plus en France, je sais pas d'où vient cette différence de culture mais effectivement quoi, c'est dommage.
Bon, écoute, on verra si ça évolue à plus longue échelle. Je pense on aura le temps de voir l'intelligence artificielle des enceintes connectées et des télécadres chez nous bien avant qu'on ait des personnes qui soient respectueuses de la relation client dans les entreprises en France. Merci beaucoup, Kassim, de t'être joint à l'exercice de rentrée de Tech Café. Et c'était un plaisir de faire la revue de l'IFA et des autres news avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Kassim?
C'était un plaisir partagé. Et puis merci de l'invitation, bien sûr. Du coup, où on peut m'en trouver? C'est une bonne question. Je pense que surtout, on peut m'en trouver sur Twitter, ce vieux réseau social que personne n'utilise. Twitter, @notcassim, donc NOTCA2SIM. Comme tout le monde, je me sers de Twitter pour me plaindre de tout ce qui m'arrive dans la vie, et notamment, et aussi pour partager mes articles qui peuvent être intéressants des fois ou parfois ou non, et où je partagerai sans doute ma participation à Tech Café.
Ah, j'y compte bien.
Pour faire un max de retweets, bien sûr.
J'y compte bien.
Et voilà. Sinon, on peut m'en trouver sur Frandroid et Numérama, et surtout sur Frandroid, en ce moment où j'écris beaucoup.
Voilà. L'actualité s'y prête. Merci beaucoup, Kassim. Pour ma part, je vous dis rendez-vous peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours. Je vous promets rien pour l'instant.
Le mystère reste entier.
Le mystère reste entier. Teasing. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos nombreux soutiens et tous vos messages que vous pouvez me renvoyer. J'ai publié notamment un article bilan de ma saison podcastique sur mon blog perso, sur lequel j'ai eu plein de petits retours, notamment par message privé, différents soutiens de divers horizons qui me font vraiment très, très plaisir. C'est un carburant assez efficace pour continuer toutes ces activités podcastiques, en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao.